j'ai toujours senti, n'est-ce pas, une espèce d'amitié, d'amour, de quelque chose entre nous tous, n'est-ce pas? Mais moi, je ne pense qu'à l'amour, je n'ai fait qu'aimer, n'est-ce pas? Je disais, mais j'aime tout le monde, mais il n'y aurait plus de monde dans la terre, et bien j'aimerais, je ne sais pas quoi, une plante, un bouton de porte, n'importe quoi.
Mais on sait que vous aimez l'amour, qu'est-ce que vous pensez des femmes, vous qui les avez tant
parlé? Écoutez, j'ai quatre enfants, avec ce que je viens de dire, débrouillez-vous.
Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période?
Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers, n'est-ce pas?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il existe étrangement peu de traces de la voix de Picasso à Lina, et ce sont généralement des phrases jetées au vol, anecdotiques. Ainsi, à la journaliste qui demande au maître, réputé pour ses conquêtes, ce qu'il pense des femmes, celui qui fête ce jour-là ses 80 ans répond qu'il a 4 enfants. Réponse absurde à une question bien niaise. Mieux vaut, pour le comprendre, regarder sa peinture, où tel le Minotaure auquel il se comparait volontiers, il dévore, viole, dépaisse et reconstruit ses modèles amantes. Pour Daniel Henri Canvella, qui fut son marchand et son ami, Picasso avait un érotisme de géant. Un érotisme pareil peut-il être contenu, montré, expliqué par une seule année de son incroyable production? C'est une question que l'on se pose évidemment en arrivant au musée Picasso, qui propose jusqu'au 11 février 2018 une exposition passionnante intitulée 1932, année érotique. En ce temps-là, l'ogre Picasso a 50 ans. Il vit avec son épouse Olga, mère de son fils Polo. Enfin riche et célèbre, il travaille d'arrache-pied pour sa première rétrospective organisée en juin. Et il peint, jusqu'à l'obsession, sa jeune maîtresse, Marie-Thérèse Walter, rencontrée 5 ans plus tôt, réalisant jusqu'à 20 toiles en 4 mois. Certaines sont venues de loin pour figurer dans cette exposition, et parfois pour la toute première fois. Cette exceptionnelle année 1932 est aussi reconstituée quasiment jour par jour grâce aux archives privées de ce géant qui conservait absolument tout. Bonsoir Laurent Lebon.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du musée Picasso. Où est organisée cette exposition sur l'année 1932? C'est une mise en scène intéressante. On sait que vous aimez les mises en scène en tant que commissaire d'exposition. Vous nous avez donné quelques-unes, ne serait-ce qu'à Versailles aussi. Vous avez créé le Centre Pompidou à Metz. Est-ce que pour vous, il est important de proposer à voir des tableaux qu'on a l'impression de connaître, Picasso, le peintre le plus célèbre du monde? C'est important pour vous de trouver un angle pour, quoi, ranimer un intérêt? Non, l'intérêt, il est toujours là, les visiteurs se pressent. Qu'est-ce qui vous pousse à chercher quelque chose qui peut apparaître comme un peu artificiel? Parce qu'au fond, la peinture de Picasso, elle n'est qu'érotisme.
C'est la vie, la passion de nos métiers. Au fond, on dit parfois que le commissaire d'exposition est un artiste frustré, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes des passeurs. Et depuis 30 ans que j'ai la chance de faire ce métier, pour moi, faire une exposition de plus, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au cœur, tenter de percer le mystère de la création. Et avec Picasso, je pense que c'est impossible. Mais à chaque fois, de renouveler le regard. Vous dites que le public se presse. Non, c'est pas toujours vrai. Je crois que le public est dans l'attente d'un nouveau témoignage, d'un nouvel angle, comme vous l'avez avec précision indiqué. Et je crois qu'avec 1932, c'est une première. J'avais eu la chance à Metz de pouvoir faire une coupe archéologique de l'année 1917, il y a de ça 5 ans. Et je m'étais dit un jour, peut-être, qu'il faudra tenter ça pour un artiste. Et j'invite les auditrices et les auditeurs à revenir vers vous s'ils trouvent un exemple. Mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé dans l'histoire des expositions. Je crois que c'est la première fois qu'on tente, comme ça, de percer. Alors évidemment, on ne peut pas aller dans tous les recoins, hein, mais je crois que c'est la force et peut-être sa grande faiblesse, hein. J'allais dire, c'est le degré zéro du commissariat. Voilà, pour reprendre un titre bien connu. Mais en même temps, peut-être qu'en revenant à la chronologie, on revient aux fondamentaux et peut-être qu'on tente d'avoir une petite proposition de réponse à ce débat sans fin dans l'histoire de la création sur le rapport entre la biographie et la vie d'un artiste. Alors, je rends hommage aussi aux deux commissaires, hein, Laurence Madeline et Virginie Perdrizo, parce que vous disiez très aimablement que j'avais créé le Centre Pompidou-Metz. Nos aventures ne sont que toujours collectives. Je ne le dis pas que par pure forme. Je crois qu'il faut quand même rappeler à tout le monde, parce que je crois que notre métier a totalement changé. En 30 ou 40 ans, on a la chance d'être à Paris, dans sans doute en ce moment, le plus beau foisonnement d'expositions dans le monde. Et l'exposition est une forme artistique qui a complètement changé. Voilà. Alors on est des mauvais metteurs en scène, on est des mauvais directeurs, voilà. Mais je crois qu'en tout cas, petit à petit, les gens se rendent compte que derrière une exposition, il y a une aventure collective, il y a un propos. Certains parlent d'instrumentalisation des œuvres. Peut-être, mais je crois que ce n'est que le temps d'un moment, en l'occurrence quelques semaines, quelques mois, mais que ça soit avec Gauguin, Derain, pour prendre des exemples monographiques, ou Jardin, que j'ai pu produire cet été au Grand Palais. À chaque fois, on essaye de rassembler les œuvres du monde entier pour proposer un moment un peu différent.
Alors, en 2005, Laurent Lebon, Diane Wiedmaier-Picasso, la petite fille de Marie-Thérèse Walter et de Pablo Picasso, avait publié un livre qui s'appelait « L'art ne peut être qu'érotique ». Elle disait que c'était son grand-père qui l'avait dite, cette phrase. Au fond, tout l'art de Picasso n'est qu'érotisme. La véritable dénomination de l'année 1932, est-ce que ce serait plutôt, mais c'est moins accrocheur, 1932, l'année la plus productive de Picasso? C'est l'année où il a accompli le plus de grandes toiles, de dessins, de sculptures. Il y avait effectivement l'opportunité de cette première rétrospective de sa vie aux Galeries Petit.
Alors je crois que vous l'avez judicieusement dit, je crois que c'est la rétrospective aux Galeries Georges Petit. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet endroit, c'est une des galeries les plus célèbres du moment, hein. Voilà. Et c'est pas hasard, l'année d'avant, Matisse y est présenté. Donc ce
éternelle
grand,
compétition voilà, entre les
le
deux
grand,
géants.
Le grand duo, le grand combat, je ne sais pas, le grand duel de ce XXe siècle. Donc effectivement, c'est une des années les plus productrices. Mais ce qui est passionnant, c'est cette diversité de médias. Et je crois que les plus belles réponses qu'on a après quelques jours d'ouverture de cette exposition, c'est les personnes à la fin qui ont oublié qu'on était dans une seule année, qui disent « mais c'est incroyable, c'est une rétrospective ». Comment un tel artiste a pu varier de style, de choix, choix de médias, puisqu'il y a de la gravure, de la sculpture, de la peinture. Et puis, c'est une année où Picasso accroche lui-même donc son œuvre. Et c'est une des rares fois au XXe siècle. Hein. Aujourd'hui, ça peut paraître très convenu, mais c'est lui-même qui décide à faire des compositions tout à fait spectaculaires. On en reconstitue une dans l'exposition. Et je crois qu'effectivement, 1932 est une année érotique parmi d'autres. Vous l'avez dit, c'est la vie de Picasso, qui est cette espèce de folie, de passion. Mais je crois que 32, c'est le moment de la sérénité, de l'harmonie. Malheureusement, son couple se délite avec Olga. Et évidemment, la sensualité de cette passion folle avec Marie-Thérèse explose. Et la contrainte devient libératrice. Quelle est cette contrainte? C'est l'exposition. Il faut produire pour l'exposition, d'où le choix de grands formats, dont notamment Le Rêve, hein, qu'on a la chance d'avoir à Paris pour quelques semaines. Et ce tableau un peu, parfois rapidement appelé la Mona Lisa picassienne, sans doute Picasso, c'est plus Guernica, c'est plus les Demoiselles d'Avignon, mais là, Le Rêve, je crois que c'est vraiment en un tableau toute la magie de ce génie qui transparaît, et on a la chance de l'avoir à Paris. Il n'était pas venu depuis 60 ans.
Alors justement, ce rêve, tableau érotique, s'il en est, on va donner la parole à Daniel Henri Canveller. C'est une archive qui date de 1971. Canveller, qui d'ailleurs est présent dans cette exposition par des lettres, des petits mots. Canveller qui disait que lorsqu'il avait vu cette fameuse rétrospective aux Galeries Georges Petit, il avait été écrasé par la peinture de ce géant, écrasé, et il y discerne toujours un érotisme de géant.
Bien entendu que tous les peintres ne sont pas autobiographe, si je puis dire, enfin les peintres classiques, si vous voulez, leur vie ne transparaît pas dans leur peinture. Tandis que Picasso, au contraire, il se confesse toute la journée. Il ne fait que raconter sa vie intérieure. Je crois que c'est toujours la femme aimée qui apparaît dans ses tableaux, plus ou moins déguisée, mais elle y apparaît.
La femme aimée, en l'occurrence, c'est Marie-Thérèse Walter. Elle est présente dans la vie de Picasso depuis 5 ans. Il l'a rencontrée, elle avait 17 ans. Et elle est devenue, dans cette année 1932, pour cette rétrospective, le modèle exclusif de Picasso.
On le voit dans toutes les variations, dans toute la diversité. C'est fou. On pourrait presque, pour paraphraser un titre bien connu, c'est de l'amour fou aussi, cette exposition. Et je crois que c'est rare, un artiste comme ça. On le dit peut-être un peu rapidement, mais Picasso, dans les années 30, n'a plus de problèmes financiers, n'a plus de besoins matériels. Et parfois, ça devient très pesant pour un créateur. Ça devient presque insupportable. C'est-à-dire que ça empêche la création. Non pas, je me permettrai pas d'être trop rapide en disant qu'une certaine austérité ou une certaine misère permet une création peut-être plus passionnante. Mais on le voit souvent en temps de crise dans la société où pour un artiste, parfois, la contrainte financière, la contrainte matérielle amène à une libération. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire Picasso n'a plus aucun souci financier et cela jusqu'à la fin de ses jours. Eh ben, jusqu'au dernier moment, il reviendra toujours à la création, la force du travail. Il se fichera des critiques. On a entendu Ken Weiler en 72, c'est-à-dire un an avant le décès de Pablo. Mais beaucoup d'amis vont le critiquer à la fin de sa carrière, notamment avec les deux expos d'Avignon. Il faudra encore la clairvoyance d'un Ken Weiler. Au moment où il voit l'expo de 32, il a déjà une longue aventure avec lui. Pour qu'il dise qu'il sort écrasé de son atelier en 1932, c'est le même qui a été mais complètement bouleversé par le cubisme 25 ans avant. Donc on a peut-être du mal à penser aujourd'hui combien ce génie nous bouleverse tout le temps, nous fait regarder le monde autrement. Je crois que c'est ça qui est fascinant chez Picasso, c'est que on peut se dire ça y est, allez, encore une expo de plus, tout a été dit, tout a été épuisé, et non. On ressort de là, on se dit mais finalement c'est encore un génie et peut-être un très grand artiste contemporain. C'est aussi ça qui, je crois, est fou dans cet accrochage qu'on évoquait tout à l'heure de l'exposition de 1932. Quel artiste aujourd'hui oserait mélanger comme ça toutes les périodes,
périodes.
Bleu, rose, cubisme.
Plus de 200 toiles.
Plus de 200 toiles.
Et c'est lui qui les a accrochées.
Voilà, on se dit mais il y a une confusion. Et non. Comme toujours, chaque mur de l'exposition est pensé, des relations plus ou moins secrètes, dont on n'arrive d'ailleurs pas à percer tous les mystères. Mais je crois que, heureusement, pour les décennies à venir, il y aura encore toujours à labourer pour essayer de percer un petit peu du génie de ce créateur. Il nous a laissé quelques indices, notamment, vous l'avez rappelé, avec ses archives. C'est un petit peu, j'allais dire, le continent immergé. On parle toujours de ses œuvres, il y en a plus de 6000 dans la collection du musée, mais il y a cette face cachée, ces 200 000 pièces d'archives qu'on a voulu dans l'exposition quasiment exposer de la même manière que les grands chefs-d'œuvre. Un ticket de boucherie, le plan de sa piscine, la facture de tel teinturier disent sans doute beaucoup moins de la merveille créatrice du rêve, mais elles viennent incarner ce propos. C'est pas quelqu'un qui vit dans sa bulle.
C'est ce que disait Ken Weiler.
Voilà.
Il a mis toute sa vie dans sa peinture, sa vie amoureuse, mais également... Et c'est assez passionnant d'ailleurs, ces petits débris de la vie de Picasso, des listes de courses d'Olga, des lettres qu'il a reçues. Pas les siennes, il n'y a pas du tout les lettres de Picasso, il y a celles qu'il a reçues, mais qui sont tout à fait passionnantes.
Par définition, la correspondance, évidemment, n'est que partielle, c'est-à-dire qu'on n'a gardé que les lettres qu'il a reçues. Sans doute, beaucoup ont conservé des lettres de Picasso, mais elles ne sont pas au musée. Et c'est évidemment toujours ce côté à moitié qui rend aussi le côté assez fascinant. Un seul exemple dans l'exposition, son petit dialogue avec Michel Léris. Michel Léris lui envoie des nouvelles de sa mission Dakar-Djibouti, et donc il y a comme ça ce jeu avec Pablo.
Et puis il y a surtout, accroché sur tous les murs de ce musée Salé, la trace de Marie-Thérèse Walter. On va bien sûr écouter sa voix. Elle parlait en 1974 sur France Culture.
Vous allez chez Picasso, donc, il vous fait poser.
Oui, et puis il me charme.
Et puis, comment il a fait pour vous charmer? Avec son art?
Non, pas du tout, lui-même. Oh, pas son art, non. Oh, excusez.
Mais quand vous avez vu, vous avez été chez lui rue La Boétie.
Ah non, il n'a fait que du classique.
Quand vous avez été chez lui rue La Boétie, vous avez vu l'étoile de lui.
Je ne le regardais pas trop parce que j'étais très timide. Et je ne me permettais pas trop de regarder. Et puis alors, il y avait un tel fouillis, vous savez, ce n'était qu'un fouillis chez lui, là-haut. Il y avait deux. Il y avait l'appartement, puis il y avait l'atelier au-dessus. Il y avait un fouillis, c'est en plus.
Mais c'est quand même extraordinaire, une jeune fille de 17 ans qui va
mais
chez
je
un
vous dis,
monsieur,
j'étais une jeune fille.
Qui est très célèbre, qui voit des tableaux, mon Dieu, qui ne sont pas de ceux qu'on voit tous les jours, et qui trouve ça tout naturel.
Non, je ne les avais pas vus. Non, je ne les avais
vous en a pas montré su.
Non, pas spécialement du tout. Non, puis immédiatement, il m'a fait du classique. Il n'a fait que du classique.
Vous connaissiez le cubisme ?
Mais pas du tout. Si, alors je commençais à voir. Vous savez là où j'ai vu son cubisme, c'était à Dinard, où je voyais toutes ces choses bleues.
Oui, c'est un peu plus tard.
Ah ben oui, c'est plus tard, mais c'est comme ça. Et alors, je voyais ces choses bleues, ça me faisait un petit peu peur. Je ne me permettais pas de lui demander si c'était moi ou si c'était Olga, parce que j'étais timide. C'était pas que j'étais timide, j'étais réservée, sans plus. Je ne lui ai jamais fait la moindre des questions de rien du tout, vous savez, mais rien.
Vous étiez soumise.
Mais non, pas soumise, j'étais gentille.
Vous étiez heureuse.
Mais j'étais même pas heureuse, j'étais à mon aise. Allons, allons.
Quelle était votre vie avec Picasso quand vous alliez poser chez lui comme ça les premiers temps?
Tout à fait exaltante. Alors je vous le dis, couverte d'amour et de baisers et de jalousie et d'admiration. Content que je vous dise tout ça?
Est-ce qu'il faisait des portraits de vous?
Mais naturellement, il ne pensait qu'à ça. Et puis à mettre mon monogramme, MT. Attendez, MT, il mettait partout. C'était Marie-Thérèse qui mettait partout. Mais alors naturellement, alors, là aussi, il me disait que je lui avais sauvé la vie, vous comprenez bien. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, naturellement.
Étrange voix de Marie-Thérèse Walter en 1974, Laurent Lebon. On sent bien quand elle parle de sa relation avec le maître qu'au fond, pour lui, c'était une page blanche aussi sur laquelle il pouvait dessiner, peindre, remplir, qu'il pouvait remplir de ses fantasmes, de ses désirs, de son besoin de peindre.
Je crois que ce témoignage est très émouvant. Il est moins connu d'ailleurs que d'autres témoignages de personnes qui ont vécu avec Pablo. Et je trouve amusant le fait qu'elles disent « avec moi c'est du classique ». On montrerait les peintures de 1932 à n'importe qui. Je ne pense pas qu'il dirait « c'est de la peinture classique ». Mais c'est passionnant de voir, alors qu'elle montre un certain détachement, qu'en fait elle est tout à fait passionnée par son œuvre et qu'elle dévoile une des clés. Elle parle de ce monogramme MT. Et on sait aujourd'hui que, évidemment, une partie de l'œuvre picassienne reste complètement à déchiffrer, sans parler forcément d'un côté alchimique. Mais il y a une peinture magique. Cette formule qui va d'ailleurs donner lieu à une exposition au musée dans 2 ans, c'est au fond, je crois, une des clés de la compréhension picassienne. Il y a derrière chaque œuvre, toujours, comme des couches archéologiques, plus subtiles, peut-être plus engagées, politiquement pour certaines, c'est moins vrai en 1932, mais ça sera pour d'autres années, des symboles, au fond, pour revenir à une simplicité de la lecture de l'œuvre picassienne. Et je crois qu'à travers, bien sûr, Marie-Thérèse, c'est pas toutes les femmes du monde, c'est la femme. Voilà, avec un grand F, et on sent, malgré le temps, puisqu'on est 1 an après le décès de l'artiste, combien Marie-Thérèse est encore, j'ai l'impression, amoureuse. Elle le dit avec ces mots très touchants, cette voix un petit peu haute, qui, je crois, dit beaucoup de cette fascination. Et ça ne l'a dérangé visiblement en aucun cas de partager la vie avec 1, 2, 3 ou 4 autres. Voilà, un personnage vraiment mystérieux, ce Pablo. Je ne sais pas s'il serait tout à fait à sa place dans le contexte actuel par rapport à d'autres aventures, mais bon, voilà.
Thank you.
Alors Picasso faisait à cette époque-là de nombreux portraits de vous. Il y a des toiles en particulier qui sont extrêmement célèbres et qui s'appellent La Dormeuse.
Oui.
Alors on a un peu l'impression qu'il vous a dit à ce moment-là, sois belle et tais-toi.
Oui, alors il a passé sa vie, n'est-ce pas, sa vie, si vous voulez que je parle un petit peu d'amour, il a passé sa vie à me dire, ne ris pas et ferme les yeux. Voilà, quoi, je l'aimais beaucoup avec moi. Alors, vous comprenez pourquoi. Mais il y en a même l'exposition chez Georges Petit, je crois, on lui avait dit, dis donc, la femme que tu nous montres, elle est tout le temps en train de dormir. Et pourquoi donc? Alors, naturellement, il a éclaté de rire, vous comprenez. Et voilà, bah, comme ça se trouve, quoi. Il y a des femmes qui l'aimaient d'une autre manière, et puis moi, d'une autre façon.
Qu'est-ce que c'était le bonheur pour Picasso?
Oh, ben, vous voulez savoir, pour lui, c'est comme quand il viole d'abord la femme, comme Renoir disait, et puis après, on travaille, hein, que ce soit moi ou une autre. Hein, voilà, c'est comme ça, je dis toujours.
Et quand on a travaillé hein.
Quand on a travaillé,
on oublie, on recommence ou on en prend une autre.
On recommence, et puis voilà. Oh, qu'est-ce que vous me faites dire?
Laurent Lebon, toujours dans cette interview de 1974, la voix de Marie-Thérèse Walter, qui est omniprésente en ce moment dans cette exposition Picasso 1932. C'est vrai que quand on pense à d'autres périodes de la vie, la période Olga, la période Dora Maar qui viendra après, c'est une peinture qui va avec Marie-Thérèse. Ce sont des courbes douces, ce sont des couleurs franches. Il y a d'ailleurs un code couleur souvent pour Marie-Thérèse, des teintes un peu mauves, un peu jaunes. Et puis, comme il travaille comme un forçat, parfois à plusieurs toiles le même jour, il prend les mêmes décors. Il y a toujours un fauteuil rouge, la ceinture jaune. Et en fait, il refait éternellement ses portraits. Et à chaque fois, c'est un portrait différent. Ce sont des toiles immenses. Et on se dit comment, en 4 mois, même avec sa force de travail, ça a l'air impossible à réaliser.
Je crois qu'il y a un tour de force. Et pour prendre une comparaison pas du tout historique, on dirait presque que Picasso est un artiste conceptuel. Je vais essayer d'être un peu plus précis dans ma comparaison, mais effectivement, il y a une sorte de partition, il y a une sorte de code génétique, il y a un ADN, il y a quelques éléments fondamentaux, et à partir de là, une déclinaison permanente, une variation permanente, qui en fait finalement le grand artiste de la série. C'est pour ça qu'il est parfois assez difficile de distinguer le chef-d'œuvre chez Picasso, c'est l'anti-Vermeer. Voilà, c'est pas l'homme d'une cinquantaine d'œuvres, c'est l'homme de 70 000 œuvres. Alors évidemment, l'histoire est passée par là et a su sortir telle ou telle œuvre qui aujourd'hui symbolise Picasso. Mais ce dont on se rend vraiment compte dans l'exposition, c'est cette plongée dans un océan. C'est ce flux permanent, et il disait lui-même qu'il avait besoin de ces plages de repos. Au fond, ces journées n'étaient sans doute pas organisées et millimétrées, mais avaient toujours ce moment fondamental où il devait se séparer de ce monde qui l'entourait pour revenir à la création et essayer d'être là encore toujours révolutionnaire. On raconte d'ailleurs cette anecdote qu'à la fameuse exposition justement aux galeries Georges Petit, il n'a pas été présent au vernissage, une sorte d'effacement. Le Minotaure est absent du combat final qui est le rapport au public. Voilà, donc dans cette corrida qui est aussi un vernissage, sans doute d'un autre rapport, mais parfois il y a diverses attitudes qu'on peut avoir. J'imagine que Cocteau ou un autre aurait été dans un tout autre registre. Et ben là, il y a le côté de l'évitement, de l'effacement, un peu comme une passe de corrida. On laisse l'œuvre face au public.
C'est une position qu'on peut qualifier aussi de terriblement orgueilleuse, parce qu'en même temps, on découvre dans cette exposition, dans ses archives privées de Picasso, qu'il était abonné à un Argus de la presse et que donc il se tenait très très au courant de tout ce qui pouvait affleurer son œuvre, sa vie.
Je crois qu'on l'a beaucoup dit sur les années 50-60 et son rapport aux paparazzi, aux médias, comment il contrôle lui-même son image, parce que ses sorties étaient évidemment annoncées, évidemment les photographes le savaient. Mais là, vous avez tout à fait raison de pointer du doigt que dès les années 20 et 30, là aussi, il y a un contrôle de l'image. Et effectivement, ce dont on se rend compte qui est c'est un certain côté terrifiant, c'est ce côté de bien vérifier qu'il a été cité, qu'il a été que l'exposition, qui a été un succès d'ailleurs, a bien été perçue, combien de fois il a, alors qu'il n'avait plus rien à prouver. Voilà, c'est ce qui fait aussi la force d'un artiste, c'est qu'il reste humain, trop humain.
Alors vous nous disiez il y a une minute, Laurent Lebon, que l'histoire avait fait le tri dans ces milliers d'œuvres de Picasso. Et d'ailleurs, en 1932, il passe sa vie entre la rue de Boétie, où il habitait, où il avait son studio, et Boisgeloup, qu'il avait acheté quelques années auparavant, cette propriété en Normandie. Et peut-être dans ses moments de repos, il fait un peu peintre du dimanche. Il nous fait quelques petits tableaux de paysages, de Boisgeloup sous la pluie, etc. Et franchement, est-ce qu'on peut dire que c'est pas bien? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça de Picasso?
Oh, cher ami, vous avez tous les droits, et non, heureusement.
Est-ce que c'est, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est recevable?
Mais ce qui, je crois, ressort de l'exposition, c'est cette volonté de montrer l'œuvre comme un tout. Idéalement, on aurait aimé tout montrer, mais pour des raisons d'espace, de coût, évidemment, c'était impossible. Mais je crois que dans cette salle que vous évoquez, peut-être pour nos amis auditrices et auditeurs, on peut en dire un tout petit mot, on a à la fois montré une série de nus, tout à fait spectaculaire, puisqu'en grosso modo, en une semaine, il fait 4 nus de grand format très différents. Et dans la même salle, exactement au même moment, on montre ce qu'on pourrait effectivement, si on est un pas attentif et passer un peu rapidement, se dire, mais c'est pas possible, c'est pas Picasso. C'est pas lui qui a fait ces petits paysages, la vue du portail de sa demeure sous la pluie en Normandie. Dieu sait si en Normandie, il pleut rarement. Enfin bref, on a là comme une sorte d'antithèse. Mais je crois que c'est ça aussi la force d'un artiste, c'est que quand on commence à bien regarder ces qui pourraient apparaître comme des pochades, on va y voir là encore quoi? Le sens de la variation, la diversité du regard. Et c'est pas la vue de son château qu'il peint, mais étrangement, c'est une vue tout à fait atypique, c'est la vue du portail vers l'extérieur, c'est-à-dire finalement une sorte de contre-champ. Et là aussi, c'est très intéressant. Et quand on regarde ces tableaux un tout petit peu, peut-être rapidement, on se dit, tiens, c'est vite fait, mais qu'est-ce qu'il y a au même moment? Il y a exactement une série semblable où on est aux limites de l'abstraction. Je pense qu'on a parlé du débat de Picasso et de Matisse, ce grand combat du XXe siècle, mais il y a un autre, sans doute, sujet à faire un jour, c'est Picasso et l'abstraction. Il a souligné très souvent qu'il n'avait rien à voir avec l'art abstrait. Mais évidemment, comme souvent avec Picasso, il faut prendre l'image à rebours. Et dès qu'on commence à prendre des détails de son œuvre, à vouloir faire tel ou tel focus, on s'aperçoit que même dans les grands nus de Marie-Thérèse, en fait, on y voit des toiles abstraites. Et évidemment, il y a aussi là sa réponse à Mondrian et à d'autres qui commencent évidemment là aussi à triompher dans les années 20 et 30.
Alors Boisgeloup, en 1932, c'est important parce que Picasso fait également de la sculpture. Il a besoin d'un espace qui se prête à ces grandes sculptures. Et il y aura un reportage photographique de Brassailles, pas n'importe qui, en décembre 1932, qui montrera précisément ce qu'était Boisgeloup dans l'univers de Picasso. On écoute.
La plupart des sculptures étaient dans un petit château que Picasso a acheté 2-3 ans avant, surtout, je pense, pour faire la grande sculpture dont il rêvait depuis longtemps. Il y a un côté sculpteur chez Picasso depuis toujours, et même dans sa peinture. Parfois, sa peinture devient tout d'un coup monochrome, et alors les objets prennent des véritables attitudes ou allures de sculpture chez lui. Et on penserait que ces tableaux étaient exécutés après des sculptures préexistantes. Et c'est comme ça qu'un jour, dans un panneau Suiza noir, qui faisait beaucoup de sensations, parce que c'était une voiture très importante à l'époque, n'est-ce pas? Il y avait des badauds qui s'attroupaient quand on s'est arrêté. Il y avait un chauffeur ganté, n'est-ce pas? C'était la grande période mondaine de Picasso. Eh bien, nous sommes embarqués dans cette voiture pour aller à Boisgeloup, avec Thériade, avec Olga et Paolo. Et il y avait beaucoup de statues à photographier. Et puis alors, Picasso nous a montré ces statues qui étaient dans une espèce d'écurie. Et vraiment, alors, j'ai travaillé tout l'après-midi pour les photographier. La nuit tombait vite, c'était au mois de décembre. Et on a travaillé presque tard dans la nuit parce qu'il avait même quelques fer forgé dans le parc, et toute cette série est parue dans le premier numéro de Minotaure. Il y avait peut-être 30 pages de ces choses.
Laurent Lebon, en 1932, Picasso est riche et célèbre, il a une Hispano-Suiza, il a cette maison de campagne, il réfléchit à y faire une piscine. C'est un homme pour qui maintenant les problèmes d'argent sont derrière et il reçoit des lettres de solliciteurs, certains lointains, peu connus de lui, on ne sait pas s'il y répond, et puis d'autres comme Fernande, la femme avec laquelle il avait vécu au temps du bateau Lavoir. Et Fernande, il y a une lettre d'elle dans l'exposition qui est terrible. Alors peut-être que c'est une femme en colère, mais elle lui dit des choses qu'on peut prendre comme assez réelles. Elle lui dit, au fond, tu te fiches un peu des autres, tu vas ton chemin et tu aimes l'argent.
C'est sans doute un des moments les plus durs de l'exposition, où on voit évidemment une autre face, hein, une autre visage de Picasso. Et comme toujours avec Picasso, il y a l'aspect Janus. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple de quelques années plus tard, on montrera au printemps prochain une exposition sur Guernica, et on verra combien il a été généreux, sans le dire publiquement, avec tout le soutien aux forces républicaines qui sera très important, et parfois dans le plus grand secret. Y compris après la Seconde Guerre mondiale, des témoignages comme Maya, la fille de Marie-Thérèse qu'on a entendue tout à l'heure, disait combien il était généreux de son temps, de l'argent. Et tout à l'heure, de manière assez violente, et je partagerai vos propos, vous avez dit, c'est étrange, la réponse à cette question sur les femmes, il répond par ses enfants. Mais c'est pas totalement anecdotique. Je pense que chez Picasso, il y a un vrai père de famille. Là aussi, il a été très dur, mais quand vous entendez Maya aujourd'hui, qui est en pleine forme, elle dit combien, finalement, ça a été un père extraordinaire. Voilà. Et je crois que ça, là aussi, on pourrait faire de nombreuses émissions sur le rapport des enfants avec un génie. Voilà. Pour revenir à ce que vous évoquiez sur son statut et autres, c'était très beau dans le témoignage de Brassailles, et là encore, le contrôle de l'image. Il prend le plus grand ou quasiment le plus grand photographe de l'époque à la fin de l'année pour photographier son œuvre. C'est un coup de génie quand on sait que l'œuvre sculptée restera souvent peu connue et que ça sera la grande révélation de l'exposition de 1966 au Grand et au Petit Palais. On découvrira un continent inconnu et contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout ça se fait non pas dans un grand espace, Brassailles le rappelle, ce sont les écuries du château de Boisjoux, et c'est un tout petit espace, et c'est foisonnant, c'est dense. Et contrairement à mon avis, je me lance un petit peu, peut-être rapidement, mais à ce que disait Marie-Thérèse, il n'y a pas de fouillis chez Picasso. C'est-à-dire que c'est un fouillis apparent, mais derrière ce désordre, il y a des rapports, des connexions, et c'est ce qu'on voit très bien dans les images de Brassailles, qui sont fascinantes. D'ailleurs, une d'entre elles est éclairée par la fameuse Hispano-Suiza. On a les phares qui éclairent ce monde sculpté, un monde fantomatique, un monde magique, ces grandes figures qui nous habitent, sans doute, bien sûr, à partir de l'image de Marie-Thérèse, mais complètement transcendée. C'est-à-dire qu'on a vraiment un peuple d'idoles absolument inconnues. Il révolutionne là encore l'art de la sculpture.
Eh bien, il me reste à vous remercier, Laurent Lebon, d'être venu nous parler si bien de cette magnifique exposition. Picasso, 1932, année érotique, c'est jusqu'en février au musée Picasso. Il y a un très très beau catalogue qui permet justement, quand on a vu l'exposition, de creuser les détails qui nous intéressent, parce qu'il y a plus de choses dans le catalogue. On attend avec impatience, en mars 2018, l'expo sur Guernica, ça vraiment... C'est avec beaucoup d'impatience et on associe bien sûr à ce beau travail les deux commissaires de l'exposition, Laurence Madeline et Virginie Perdrisseau. C'est un partenariat avec la Tête Moderne où l'exposition continuera lorsqu'elle se terminera à Paris.
Voilà notre petite réponse au Brexit. Et il n'y a pas de Brexit culturel.
C'est une bonne réponse. Merci à vous Laurent Lebon, au revoir.
Merci à vous.